Nous allons reprendre le texte de Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 21 à 27. J'espère que le message qui a été prêché par le pasteur Delzo dimanche passé nous a beaucoup édifiés. Et en lisant ce texte des Actes des Apôtres, nous allons encore rester dans cette perspective qu'il a montrée tout au long de sa prédication. Faisons un petit rappel de ce qu'il avait dit. Il disait qu'il y avait plusieurs sortes de chrétiens, soit chrétien chat, chrétien chien, chrétien chèvre, ou chrétien
chameau.
Et il y avait une. Oui, voilà. Il n'y avait pas les poules. Donc, il a utilisé des métaphores, justement, hein, pour caricaturiser un peu les catégories des membres d'une paroisse. Et je crois que chacun d'entre nous, on s'est retrouvé un peu. Peut-être un peu de chat, un peu de chameau, ça dépend. Mais si on revient à notre texte, en faisant le parallèle, nous pouvons aussi relever 5 expressions utilisées par l'auteur pour décrire les différents types de personnes, de chrétiens dans une église. Et les voici ces termes qui ont été annoncés dans notre texte d'Actes des Apôtres. Il parle de disciples. Après, il parle de les croyants. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre un croyant et un disciple? Il parle des anciens. Il parle des membres de l'Église. Et à la fin, il parle des non-juifs qui étaient dans l'Église. C'est le texte qui le dit. Vous pouvez le relire si vous avez le temps pour s'imprégner de cela. Les disciples, ce sont des personnes qui ont suivi des formations ou des édifications assez poussées, et en quelque sorte, ce sont ceux qui ont pu avoir un approfondissement à la foi. Ce sont des personnes qui sont sur le chemin de la maturité spirituelle. Et on peut lire un texte qui peut nous éclairer encore un peu plus, dans Hébreux chapitre 5, versets 13 et 14. Hébreux chapitre 5, versets 13 à 14, qui dit au nom de Jésus: « Or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faite pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Donc il y en a qui sont encore au stade du lait spirituel. Si on commence à donner un peu plus, ils ne vont pas digérer. Donc, pourtant, il faut grandir. Il ne faut pas toujours rester au lait spirituel. Donc, le disciple, c'est celui qui va de ce passage de lait spirituel vers la maturité spirituelle. Le deuxième type de chrétien dans une paroisse, dans une communauté, ce sont les croyants. Dans le texte grec, pourtant il le dit toujours disciple, et ça a été traduit croyant. Mais il y a une différence de taille entre le disciple et le croyant. Dans le premier, au verset 21, il s'adresse à ceux qui sont encore sur le chemin de la formation, comme on vient de le dire tout à l'heure. Tandis qu'au verset 22, il s'adresse à ceux qui sont déjà des disciples, qui ont déjà acquis le statut de disciple depuis un certain temps. Et donc, Paul et Barnabas avaient aussi un message pour ces croyants qui avaient besoin d'affermissement. Oui, être un disciple ne veut pas dire que nous ne serons pas inébranlables. Même être pasteur être prédicateur laïque, être responsable de diverses responsabilités dans une église, nous sommes les plus vulnérables et exposés au danger. Donc il faut faire très attention de ne pas avoir une idée que nous serons inébranlables. Au contraire, nous serons les premières cibles à abattre. Donc on a besoin d'affermissement. Ils ont besoin de soutien à l'image de l'histoire de Moïse. Rappelez-vous lors du combat contre les Amalékites. Quand Moïse levait les bras, qu'est-ce qui s'est passé ? Les Israélites étaient forts. Et à un certain moment, puisque c'est un être humain, il était fatigué, il baissait ses bras. Alors, Israël se faiblissait aussi. C'est alors qu'Aaron et Hur ont décidé de placer un rocher pour que Moïse puisse s'asseoir dessus. Et des deux côtés, il soutenait ses bras. Aaron d'un côté, de l'autre côté, Hur. Et jusqu'à ce qu'Israël a pu exterminer ses ennemis. Même Moïse, qui a été choisi par Dieu, a besoin de soutien. A besoin de soutien d'Aaron. A besoin de soutien de Hur, puisque nous sommes que des êtres humains. Troisième type de chrétien dans une paroisse, les anciens. C'est une sorte de conseil de sage, si on peut le dire, les anciens de l'Église. Ce que Paul et l'Église a confié la vie de l'Église est de prendre soin des brebis du Seigneur. Mais à souligner, les anciens de l'Église, ils ne sont pas les chefs de l'Église, comme dans l'instance des Sanhédrins, mais ils ont été choisis pour servir la communauté. Quatrième type de chrétien dans l'Église, les membres de l'Église. Là, il s'agit de l'assemblée, là où il y a des rencontres autour de la parole, comme on vit aujourd'hui tous les dimanches. Et ce n'est pas un simple rassemblement de gens qui n'ont rien à faire pour se retrouver. L'Église, c'est aussi et surtout un rassemblement autour de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui rend le culte saint. C'est pas le lieu, c'est la parole qui nous unit. Là où la parole de Dieu est annoncée, là Dieu agit. Et au verset 27, on parle surtout des réalisations de ce que Dieu a fait concrètement. Et j'aimerais attirer votre attention sur ce point. Qu'est-ce qui différenciait les assemblées juives, où l'on écoutait aussi la Torah, la parole de Dieu, par rapport aux assemblées de l'Église à cette époque? Le verset 27 nous le précise bien. Il parle de ce que Dieu avait réalisé dans ces assemblées. Ce n'est pas juste une réunion où on parle sur Dieu. Sinon, on pourrait rester à la maison en écoutant la radio. Il y a des émissions télévisées sur Dieu. C'est pas ça. C'est pas pour assister à une conférence. Mais nous sommes rassemblés autour de la parole de Dieu parce que là où la parole de Dieu est prêchée, Dieu est présent et Dieu agit. Et c'est pour ça qu'on se réunit autour de cette parole. Une parole active, mais pas passive. Je me rappelle toujours, à chaque fois qu'on commençait à prier, à chanter, dans la paroisse où on était, il y avait des personnes qui étaient encore sous le joug du diable. Ils commençaient à crier, rien qu'entendre les chants. Et là, on sentait que Dieu est là, et le mal ne peut pas être présent face à sa sainteté. Le cinquième type de chrétiens, les non-juifs. Et là, il s'agit de ceux qui viennent des autres nations. Ce ne sont pas des païens comme on le croit. Souvent, quand on dit païens, ce sont les non-chrétiens. Non, des non-juifs. Et Paul parle de ces voyages missionnaires. Il découvrait aussi l'ampleur de la force de cette parole qui agit hors de la frontière juive. Et ça, ça les a étonnés parce qu'ils croyaient que Dieu n'agissait qu'à Jérusalem, puisque le temple était là, le trône de Dieu. Dieu nous surprendra toujours. Il a surpris Pierre et Paul, qui n'en revenaient pas que ces personnes païennes puissent faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Parfois aussi, nous avons des préjugés qu'il y a des personnes qui ne devraient pas faire partie de l'Église. Mais je vous assure, ce sont ces gens-là qui vont nous devancer même dans le royaume de Dieu. Donc, ne soyons pas comme des pharisiens en essayant de nous comparer aux autres, surtout aux nouveaux qui viennent. Moi, je dis toujours, ce sont ces gens-là qui vont nous apprendre encore plus sur Dieu que nous. Nous, on commence à tomber dans la routine, dans l'habitude. Oui, je suis chrétien depuis de longues années, comme si c'était des expériences à mettre sur le CV. Ça ne compte pas, ça, non. Et en faisant la synthèse de ce texte, nous pouvons constater qu'il existe des catégories de chrétiens au sein d'une communauté. Mais ces différentes catégories sont appelées à évoluer. Ce n'est pas statique. Au départ, on fait partie des nouveaux entrants, c'est vrai. Ensuite, nous devrions évoluer dans un cheminement spirituel de vie de disciple. Justement, pourquoi ? Pourquoi faire ? Ce n'est pas pour avoir la tête bien remplie de la parole de Dieu, mais pour devenir les anciens de l'Église, pour évangéliser et édifier, ainsi de suite. Notre plus grande joie, c'est de voir plus tard nos enfants qui sont éduqués ici par nos moniteurs et monitrices et qui suivent cette évolution, deviendront eux les anciens de cette paroisse et qui prendront des initiatives et les décisions. C'est ça une mission accomplie. Mais si ça ne bouge pas dans ce côté-là, alors là, c'est une église qui est tiède, dit la parole de Dieu. Et pourquoi il y a des gens qui n'évoluent pas du tout alors ? Pourquoi ils restent toujours dans le point initial où ils étaient ? Ça, c'est toujours une question qui se pose. Normalement, après chaque assemblée ou réunion de prière, nous devrions sortir de là édifiés. Rappelons-nous de l'histoire du pharisien et du collecteur d'impôts qui venait au culte. Le pharisien qui citait à haute voix toutes les prouesses qu'il a pu faire pour le Seigneur. Et à l'entendre, c'était impressionnant. Oh, il a fait tout ça. C'est un peu, si je fais une comparaison très, très raccourcie, un peu le petit nouveau qui arrive dans notre église. Et quand on arrive au moment des prières libres, il nous entend prier. Et en lui, il dit, waouh, quand est-ce que je pourrai prier comme lui ? Je ne saurai jamais. Celui qui était au fond, Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Mais sachez-le, que ce sont les anciens et les apôtres qui étaient étonnés de voir l'œuvre de Dieu, qui s'accomplit à travers ces soi-disant nouveaux entrants ou nouveaux convertis. Et dans les évangiles, il y avait la femme syrophénicienne qui était prise par Jésus comme exemplaire en matière de foi. Il déclara « Je n'ai jamais vu une foi pareille en Israël. » Même chose pour le centurion romain. Ce sont des gens païens, entre guillemets, selon la définition juive. Qu'il n'est pas digne de recevoir le Christ chez lui, c'est ce qu'il a dit. Et qu'il suffit de prononcer un mot pour guérir le serviteur. Et ce sont ces personnes que nous croyons petits et faibles qui étonnera toujours le Seigneur. Et je reprends toujours les mots du pasteur Delzo, lors de sa méditation, il avait parlé de prière. Et pour faire un petit rappel, la prière, c'est montrer notre précarité devant Dieu. Ceux qui assument sa précarité devant Dieu pourra voir la face de Dieu. Cette précarité est large. Ça pourrait être comme l'attitude du collecteur d'impôts qui n'osait même pas dire un mot derrière, ou l'attitude du Romain qui disait « Prononce juste un mot et mon serviteur sera guéri. » Ces gens-là, ils avaient tout. Le collecteur d'impôts, il était riche. Le Romain, il avait son pouvoir. Mais il est venu devant Jésus avec une précarité. J'ai rien, Seigneur. J'implore ta grâce. Et si nous avons du mal à bien voir comme ces deux personnalités de l'Évangile, alors adressons-nous au Seigneur de nous ouvrir nos yeux que nous sommes pauvres. Et c'est là le problème. Il est difficile de convaincre aux gens qu'il est pauvre. Comme Job, c'était quoi le combat de Job? Au départ, lui, bon Seigneur, pourquoi? Il y a des pourquoi? Parce que c'était un homme juste. C'est ce qui est écrit au tout début. Hein. C'est un homme qui faisait des sacrifices en vue de réparation des fautes de ses enfants. Or, un beau jour, il a tout perdu. Et là, il ne sait plus pourquoi. Et à ce moment-là, quand Job avait compris, c'est toi qui es mon père, ma mère et ma sœur aussi viennent de la poussière. Quand il avait compris cela, il savait qu'il a besoin de Dieu, sa guérison est revenue. À nous aussi, quand nous venons devant Dieu, venons devant lui avec cette précarité, et pour pouvoir avancer encore un peu plus. Amen.